Et bonjour à tous, on en est à J-14 pour l'UTMB, J-14, donc on pourrait même dire S-2. Ça y est, on est à 2 semaines de l'UTMB, dans 2 petites semaines, eh bien ce sera l'heure du départ. Enfin, pas tout à fait, ce sera à 17h. Donc, évidemment, bah là, le gros de l'entraînement, comme je l'ai dit hier, est fini. Aujourd'hui, on est encore sur une récup, voilà. C'est récup aujourd'hui, tranquille. Du coup, qu'est-ce qui est prévu? J'ai un gainage à faire, encore une fois, là, une petite demi-heure. Ah, plus qu'un gainage, il y a plusieurs mouvements. C'est tout un entretien du corps pendant une demi-heure, avec des exos d'équilibre, avec par exemple, des fentes en longue série, mais sans poids, pour drainer un peu le muscle, avec bah, le fameux gainage, avec... des pompes, des abdos, voilà, un petit peu de quoi, je sais pas moi, ne pas passer la journée dans le lit à rien faire, quoi. Et cet après-midi, bah, comme tous les jours de repos, un petit tour au lagon, merde, spa, sauna, hammam, les douches froides, le petit seau d'eau froide, là, qu'on se balance sur la tête. Et ce soir, massage étirement. Voilà, ça c'est une bonne journée de repos, avec des bons repas. Ce midi, il y aura les patates du jardin, mais c'est pas le mien parce que j'en ai pas. Je remercie François Cyril, qui était là la semaine dernière, et qui m'a légué ses dernières pommes de terre. avec des bonnes grosses doses de légumes. En plus, en ce moment, bah, vous avez des courgettes, hein, ça pousse un peu comme ça pousse un peu partout comme de rien. Et quelques protéines animales, bien sûr, on y reviendra. Et végétales aussi, puisqu'il ne faut bouder aucun plaisir. Alors, les questions. Eh ben oui, parce que journée de repos, voilà, une fois que je t'ai dit que j'allais me reposer, bon, bah, c'est fini, quoi. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on fait comme podcast quotidien? Pas grand-chose. Donc, on en profite pour poser les questions. Et ce matin, justement, j'ai regardé, je vous le disais hier, j'ai regardé ce matin les ravitaillements de l'UTMB, ce qui allait nous être proposé. En termes de nourriture, je m'en fous un peu, normalement j'aurais pas besoin d'en prendre. Mais j'ai regardé les boissons, alors les boissons, il y a à peu près tout. donc il y a de la ceinture. Voilà, ça c'était ma grande question. Et je vais demander à Seb, qui me fait le plan nutrition UTMB, alors déjà j'aimerais lui souhaiter un excellent rétablissement, puisque malheureusement Seb est tombé en vélo et il s'est cassé la clavicule, et donc pour l'instant bah, il est au stade de l'handicap et il ne peut pas faire mumuse sur son ordinateur comme à son habitude. Donc oui, j'ai partagé le lien des ravitaillements de l'UTMB sur le forum, dans la rubrique course rassemblement, le sujet UTMB, j'ai partagé le lien. Et vous donc vous pouvez lire, voilà, quel ravitaillement, qu'est-ce que vous allez y trouver, patati patata. Donc bah, j'aurai ma ceinture, donc niveau minéraux, bah, je suis peinard, j'aurai pas besoin d'emmener des électrolytes qui sont, je le rappelle, hein, de très mauvaise qualité. Malgré un très joli packaging et de très beaux conseils marketing. Donc, attaquons quelques petites questions que je me suis notées. Il y en a plusieurs, de Frédéric Delabrouille, qui est demandeur. Hein. Je ne sais pas, Frédéric, si tu as envie de faire l'UTMB dans les prochaines années, mais là, tu vas avoir toutes les cartes en main. Alors, Frédéric me parle de la fréquence cardiaque de repos, que je mesure tous les matins. Alors, à la fin, je vous proposerai un bilan de ce tableau de variation là pendant un mois, et même je le ferai peut-être durer un peu pour voir, une fois revenu en pleine, si la FC baisse un peu, parce que par exemple ce matin elle était encore assez haute, elle était à 43-44, sachant que les jours où j'ai été très fatigué ici à Tignes par les entraînements, il était possible que je me réveille avec une FC de 50-51, 52 même des fois. Donc tu vois, déjà rien que de prendre sa FC de repos tous les matins, c'est un bon indicateur. Là, en fait, après 2 jours de repos, elle est revenue en bas, à 44. Le plus bas que j'ai mesuré à Tignes, c'était 43. Et en plaine, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai pas remis de cardio depuis 2015 ou je sais plus quand. Même en 2015, je crois que je mettais le cardio à l'entraînement, mais pas au repos le matin. Du coup, tout ce que je me rappelle, c'est une mesure en 2011 où j'avais fait un record à 35. Donc on verra si une fois revenu en plaine, j'arrive à passer sous les 40. Et donc, Frédéric me demandait si je suivais ma variabilité cardiaque. Alors là, il vous faut une montre qui mesure le RSSM. Je me souviens pas trop du protocole, mais il faut que vous restiez en gros allongé 5 minutes avec la montre. Après, vous vous levez, vous reprenez une mesure. Je ne me souviens pas vraiment du protocole. Je trouve ça assez pénible. Et au final, c'est pas en le faisant pendant un mois que je vais pouvoir vraiment adapter l'entraînement. Alors en plus, c'est particulier parce que l'entraînement pour l'UTMB, en fait, à un moment donné, on va chercher une fatigue. Donc si tu veux, tu vas mesurer une variabilité cardiaque qui va te dire ah, vous êtes fatigué! Mais oui, merci. Merci, mon garçon, mais c'est normal en fait, c'est le but recherché, faire un entraînement sur fatigue. Et ça, bah voilà, la valeur RSSM, elle va être toute pourrie, et néanmoins, je vais quand même aller m'entraîner. Donc ça ne m'intéressait pas vraiment, cette mesure de la variabilité. Après, ça peut être sympa au quotidien, mais qu'est-ce qui ressort? Parce que, encore une fois, ça, c'est comme le jeûne intermittent, c'est comme le low carb, c'est un truc qu'on te brandit comme ça en te sortant en te vendant le nouveau truc à la mode. Alors bah sachez-le, c'est quand même très vieux hein, comme indicateur hein. Ça n'a pas été inventé l'an passé hein, loin de là. Donc celui qui fait le malin en disant putain mais attends mais ça c'est le nouveau truc et tout bon bah c'est un guignol hein, qui ne connaît pas l'histoire du sport. C'est Quand vous passez votre diplôme d'État, en fait, vous avez à un moment donné une formation là-dessus. Et en général, le formateur, si c'est pas trop un mytho, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que ces athlètes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, abandonnent la mesure au bout d'un certain temps. Parce que c'est chiant, en fait. Tout simplement, c'est chiant, voilà, il faut le dire. Donc tu le fais un mois, quand tu es très motivé, tu le fais 2, 3 mois, et puis bon, après, ça abandonne. Donc les coachs en général, voilà, témoignent. Ah, certains qui sont un peu opiniâtres le font pendant 6 mois, mais bon, en général après, voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc ça ne m'a pas motivé plus que ça, Fred. Puis après, t'as toujours quelqu'un qui va te dire, ouais, mais regarde, Xavier Thévenard, il le fait. Ouais, il en parle. Après, est-ce qu'il le fait tous les jours? Est-ce que puis finalement, s'il y a Xavier Thévenard qui le fait, en fait, ça fait une personne sur 65 millions d'habitants en France, donc c'est peut-être pas forcément représentatif. Après, Xavier, bon, il le fait, mais quand son truc, il lui dit qu'il est pas en forme et que du coup, il prend pas le départ du grand raid, bon, bah, c'est pas ma philosophie, hein, même si je le respecte. Donc, voilà, ça ne m'attirait pas, pour plusieurs raisons, tu vois, j'ai un peu du mal avec le fait qu'une montre te dise, ouais, attention, t'es fatigué, ouais, enfin, merci, mais j'ai le droit d'écouter mes sensations aussi, tu vois. Et puis, en fait, pour l'UTMB, aussi, c'est pas très très grave, parce que, à la limite, cette variabilité cardiaque, elle est intéressante quand tu vas faire des semaines entre guillemets classiques où tu vas développer plusieurs qualités, tu vas faire des intensités. Moi, des intensités, ça fait un mois que j'en fais plus, voire même un peu plus. Parce que entre le Swiss Canyon et le 90 du Mont Blanc, bah, on n'en a pas fait énorme. Après le 90 du Mont Blanc, je me suis reposé, puis après, je suis parti sur une prépa UTMB. Voilà, séance VMA inexistante, séance train à plat quasiment inexistante aussi. Là, voilà, on s'est focalisé sur un truc qui ressemble au parcours de l'UTMB. Et à ce moment-là, en fait, que t'as des sorties, voilà, le coach va te dire de faire, je sais pas moi, entre 4 et 6 heures. Quand t'es fatigué, tu fais 4, quand tu te sens bien, tu fais 6. T'as pas besoin d'un taux RSSM pour, ou je sais pas quoi, de variabilité cardiaque pour le faire. Par contre, si tu fais, ouais, un cycle de VMA en janvier, par exemple, comme ça m'est arrivé, t'enchaînes les séances, bah, peut-être qu'à un moment, faut les espacer un peu plus, ou peut-être qu'à un moment, tu peux accélérer la prépa en les raccourcissant un peu plus. En te basant justement sur ce taux, enfin sur cette variabilité cardiaque. Quand tu fais pas mal de spécifiques, ça peut être intéressant, ouais, parce qu'à ce moment-là, tu peux creuser une fatigue que tu verras pas, parce que quand tu fais du spécifique, à côté, tu mets pas mal de repos. Tandis que là, moi, je bourrinais dans les chemins tous les jours, en gros, hein, je fais des raccourcis grossiers. Donc en bourrinant dans les chemins tous les jours, si tu veux, il y a bien des jours où je sentais que ça allait pas, et des jours où je sentais que ça allait, à ce moment-là, j'adaptais moi-même la durée. Donc voilà pourquoi je m'en suis pas servi. Après, évidemment, hein, je ne l'interdis à personne, vous pouvez le faire. Encore une fois, vous allez voir votre qu'est-ce qui va se passer, votre motivation, elle va baisser au fil du temps, et en fait, vous allez abandonner, quoi, au bout d'un moment. Voilà, c'est un peu comme le régime sans gluten, le régime sans laitage, hein. En général, les gens découvrent ça, ils sont très motivés au début, et puis, au bout d'un certain temps, voilà, on se remet à manger comme tout le monde. En fait, la moyenne nous attire sans arrêt vers elle. C'est dur de s'en extirper. Encore plus sur la variabilité cardiaque. Comment vas-tu ? Donc, toujours, Frédéric, allez, j'en fais une deuxième. Comment vas-tu gérer l'hydratation avant l'UTMB et au départ ? Bah, écoute, là, c'est très simple. Je vais continuer à boire. Alors, en plus, je suis en altitude, moi. Jusqu'à mercredi 25 août. Le départ, c'est vendredi 27 août. En altitude, tu te sèches, enfin, tu t'assèches plus vite, donc il faut boire plus, en fait. Voilà, faut boire plus. Faut manger plus, aussi. Mais faut boire plus. Donc, je bois constamment, toute la journée. Je bois de l'eau plate, je bois du jus de citron, un petit peu de ceinture. Alors, quand je m'entraîne pas beaucoup, bah, j'en bois vraiment moins, et quand je m'entraîne beaucoup, j'en bois plus. Encore une fois, une simple... De temps en temps, une petite bière de récup, ça fait du bien, hein, voilà. Ça change de goût et tout, toujours pour m'aider à boire de plus en plus. Qu'est-ce que je bois d'autre ? C'est à peu près tout, ouais, c'est ça. Donc comment gérer cette hydratation ? Bah là, vu que je suis en altitude, donc je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la semaine avant l'UTMB, évidemment, je m'entraînerai plus ou quasiment plus. Je crois que je vais faire un footing d'une demi-heure la veille. Le mercredi, je vais faire repos. Le mardi, je vais faire une marche en montagne. Pour voir une dernière fois les sommets, mais je fais une marche. Hein, je répète, un truc vraiment pas fatigant. Et je crois que c'est le lundi, donc 5 jours avant. Le lundi où je fais une dernière sortie running avec 1000 mètres de dénivelé, à peu près. Donc, le lundi, je vais faire 2h, 2h30 de vrai run en montagne, sans taper dedans. Hein. Avec un léger déblocage à la fin, et tu vois, après, tout le reste de la semaine, voilà, je vais rien faire, quoi, quasiment. Et à ce moment-là, en fait, je vais manger un tout petit peu plus pour vraiment être en manque de rien au départ. Avec mes réserves de glycogène le plus complet possible. Donc, on affinera hein, quand on sera à ce moment-là, mais... En gros, lundi, à mon avis, je vais courir de manière... Peut-être pas à jeun, mais... voilà, peut-être sans manger pendant la sortie, en ayant mangé pas de glucides le matin, pas de glucides la veille, un truc comme ça. Et par contre, après, de mardi, lundi soir, mardi, mercredi, là, je vais augmenter un petit peu mes apports en glucides... mais sans faire le porc hein, non plus. Et parallèlement à ça, en fait, je vais boire beaucoup plus. Déjà pour rester vraiment bien hydraté, et d'autant plus pour mieux fixer ces glucides, parce que le glucide, si vous ne buvez pas à côté, vous ne le fixez pas. Donc là, bah facile. Hein. Toute la journée, tu bois, tu bois, tu bois. T'as pas vraiment besoin de compter. Disons que, je sais pas, si tu commences à aller aux toilettes une fois toutes les heures, peut-être là, tu es dans l'excès. Mais voilà, beaucoup boire, après, la quantité, bon, dur à dire. Et au départ de l'UTMB, en fait, ce que je vais faire, les deux années, là, 2018-2019, j'ai fait une privation de café avant la course. Cette année, je le fais pas, écoute, je prendrai ma décision aujourd'hui ou demain. Mais ce que je faisais, en fait, l'erreur, tu vois, c'est qu'au départ de l'UTMB, je buvais un café. Le café a plutôt tendance à te déshydrater. Ça pourrait pencher dans la balance pour me faire arrêter le café maintenant, au-delà de la privation de caféine. Le café a tendance à te déshydrater. Et donc, le fait d'en prendre un juste avant le départ... Alors certes, ça me réveillait, parce que du coup, j'avais un apport en caféine, alors que ça faisait 2 semaines que j'en manquais. Encore que, ça, c'est un ressenti personnel, la science n'est pas d'accord là-dessus, donc... C'est pour ça que je me tâte, tu vois, aujourd'hui. Je pense quand même que je vais me priver de caféine, je te le dirai demain. pour encore une fois me mettre dans la course, tu vois, basculer dans une prépa encore plus spécifique, tu sais, mentalement, m'immerger vraiment dans le truc. Mais du coup, au départ, en prenant ce café, en fait, je creusais ma tombe, parce que je prenais un truc qui favorisait la déshydratation. Donc, ce qui est sûr et certain, que je me prive de caféine ou pas, et bah, au départ, je ne boirai pas de café cette année. Donc, je boirai de l'eau, peut-être un verre ou deux d'eau gazeuse également. Mais je boirai, voilà. Au départ, alors, moi, au départ, je viens juste avant le départ sur la ligne. Donc, j'ai pas besoin d'amener, tu sais, une bouteille d'eau pour attendre ou quoi que ce soit. Mais j'en amènerai peut-être une si je viens une demi-heure avant. Voilà, j'amènerai un peu ma bouteille et puis je la poserai par terre à côté d'une barrière et il y a quelqu'un qui la ramassera, qui la mettra dans une poubelle. Vu le monde qu'il y a. Et donc, ben, j'ai pas vraiment besoin. Pareil, j'ai pas besoin de boire une boisson d'attente parce que, en gros, ben, le vendredi, tu vois, je vais faire mon petit déjeuner à 7h30. Je vais faire mon repas à midi, et puis en fait, à 16h, je vais faire une espèce de collation améliorée, que j'appellerais plutôt repas, parce qu'à mon avis, je vais manger du salé. Et donc, au départ, pas besoin de boisson d'attente, hein. On n'est pas sur un départ tôt le matin, où là, vous avez déjà en partie squeezé votre petit déjeuner, parce que vous ne pouviez pas manger comme un porc, et vous attendiez le départ, voilà. Puis, vu que c'est ma troisième participation à l'UTMB, j'ai plus vraiment de stress au départ. C'était le cas en 2018, beaucoup moins en 2019, et j'imagine cette année encore moins. Surtout que cette année, voilà, si je pars doucement, je pars doucement. Je suis pas trop focalisé sur le début de course cette année. Moi, c'est possible que je sois assez loin d'ailleurs à Saint-Gervais. Et si j'ai une forme de cochon, c'est possible que je sois devant aussi. Je ne m'interdis rien en fait. Feeling quoi, tu vois, ressenti, sensation, voilà, feeling. Essoufflement, c'est un bon indicateur. Donc voilà Fred, tu vois, pas de truc vraiment fantasque, il faut faire les choses normalement et simplement. Ce que je peux te dire en fait en résumé, c'est que je vais boire plus. Voilà. Alors, autre question de Jocelyn Rouzy. Alors, Jocelyn, on passe à un breton. Et notre breton va participer à la CCC. Donc la CCC n'est pas un profil qu'on retrouve aisément en Bretagne. Puisque la Bretagne... Alors, la Bretagne n'est pas un plat pays, mais la Bretagne n'a pas non plus de grosses montagnes. Donc la Bretagne est un truc vicieux qui, pour le trailer ou le cycliste, va le faire sans arrêt changer de rythme avec des descentes, des montées, raides, pas raides, etc., etc. Des trucs qui vont durer 5, peut-être 10, 15 minutes. Mais des trucs relativement brefs. Par contre, le mec va être tout le temps habitué à relancer. Ce qui est néfaste pour une CCC, puisqu'à la CCC, on va vous demander de faire des très longues montées et des très longues descentes à un rythme plutôt de sénateur. Et donc Jocelyn me dit, Hugo, avec tes nouvelles connaissances sur l'altitude, le fait que j'échange régulièrement avec Vincent Pialou, qui est un professeur d'une université de Lyon qui justement s'intéresse à l'altitude, enfin il bosse dessus quoi, il me dit, voilà, avant cette CCC, donc je vais arriver 3-4 jours avant la course, sur Chamonix, pour prendre mon dossard, ou Courmayeur, je sais plus, patati, patata, et je me pose la question de faire une marche en altitude de quelques heures au-dessus de 2000 mètres, pour m'acclimater. Alors, Jocelyn, normalement, ça sert à rien. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour être acclimaté à l'altitude, il te faut plus de 2 semaines. Donc, t'es baisé. Maintenant, une fois que tu le sais, on peut trouver des petites choses. Ce qui est sûr, c'est que tu ne seras pas acclimaté. Donc ça, voilà, tu l'enregistres, t'en es conscient. Dès que tu vas passer, alors après, ça dépend un peu de tout un chacun, mais à mon avis, dès que tu vas commencer à taquiner les cols au-dessus de 2000, je rappelle que le grand col ferré est à 2600 mètres d'altitude, tu vas te sentir un peu abattu, tu vas sentir un peu la tête lourde, peut-être le souffle un peu élevé, les muscles un peu... les muscles, attends, comment dire, tu te sens un peu en carton, quoi, en chiffon, en pâte molle. Mais normalement, ce sera le cas de quasiment tous les concurrents autour de toi, en fait. Donc faut pas que tu t'inquiètes. Après, si t'as l'occasion, tu vois, 3-4 jours avant, moi aussi, je vais faire une marche en montagne. Après, bon, moi, ça n'a rien à voir, hein, ça fera un mois que je suis en altitude. Mais cette marche en montagne, bah déjà, oui, dans ton corps, elle va déclencher un petit peu quelque chose. Donc je pense que c'est mieux que rien, même si apparemment, il n'y aurait pas de bénéfice à en dégager. Mon point de vue à moi, qui ne suis pas professeur, c'est que tout de même, voilà, il y aura une petite réaction dans ton corps qui va faire quelque chose. C'est-à-dire que du coup, les 2000 mètres, tu vas pas les découvrir pendant la CCC, tu vas les découvrir 3-4 jours avant. Je pense que ce sera toujours un petit peu mieux. Donc je te conseillerais cette marche en montagne, au-dessus de 2000. Par exemple, ce que fait Renaud Rouanet, qui est un coureur très bon sur Ultra Trail, surtout quand c'est technique, caillouteux. Quand il arrive à Chamonix pour une des courses de l'UTMB, ou pour le 90 du Mont Blanc, qu'il avait fait en 2019, je crois que c'est 2 jours avant, il passe une nuit en refuge, en tente, je sais juste pas trop ce qu'il fait, mais il passe une nuit à 3000. Voilà, c'est un petit rituel qu'il a. Alors évidemment, ça ne l'adapte pas à l'altitude, mais ça le fait souffler un bon coup, souffrir un bon coup, et ça passe mieux quand même le jour de la course. Du moins, c'est son ressenti. Donc voilà pourquoi Jocelyn, à mon avis, bah vas-y, fais ta marche 3-4 jours avant. Déjà, d'un point de vue de l'entraînement, c'est une très bonne idée. D'un point de vue de l'altitude, bah t'auras pas d'effet négatif. Donc imaginons que t'aies un petit effet positif, autant le prendre. Et voilà, tu n'en retireras pas de négatif. Donc bah, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est au pire des cas avoir un petit bonus. Voilà, donc autant le faire. Voilà, voilà Jocelyn. Pour ta réponse. Allez, une question de Tanguy, qui est un des nouveaux patriotes Tanguy. Question alimentation. Alors, que me dit-il? Il me dit, Hugo, l'altitude, patati, patata, beaucoup d'entraînement, patati, patata, t'as augmenté les glucides. Ça, c'est pas une question, hein, c'est une remarque, c'est vrai. Et il me demande, du coup, Hugo, tu n'as pas parlé des protéines. C'est vrai. Les as-tu augmentées? Quelle source favorises-tu? Et du coup, bah, si tu peux chiffrer un peu le truc, à combien de grammes par kilo de poids de corps tu tournes? Donc j'aime bien cette question parce qu'elle est chiffrée. Donc Tanguy, pour te répondre, toute l'année, je suis entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc bah moi grosso modo je fais 60 kg, un peu moins là, je suis un tout petit peu en dessous de 59, mais bon on va prendre 60 kg. Donc en gros je mange entre 100 et 120 grammes de protéines tous les jours. Dans ce compte, qu'est-ce qu'il a compté Seb? Putain, je me souviens pas. Si tu veux, en gros mes repas ils sont composés comme suit. Le matin j'ai entre 30 et 40 grammes de roquefort. J'ai 2 œufs, le midi je prends 100 à 120 grammes de protéines animales, donc ça peut être une tranche de steak de 100 grammes, une boîte de thon de 100 grammes, ou 3 œufs, je crois que c'est ça. 3 œufs plus un yaourt de chèvre. Et le soir en fait je me fais un riz lentille, voilà. Donc dans ces 100 à 120 grammes de protéines par jour, je compte les protéines animales et végétales. Voilà, ça y est, je m'en suis rappelé. Alors, tous les soirs, je ne mange pas riz lentille parce que ça me casse un peu les couilles au bout d'un moment. Je dirais que je le fais 5 soirs sur 7. Voilà, en gros. Du coup, bah, je réponds à la question en fait à l'envers. Donc voilà, tu vois, donc grammes par kilo de poids de corps, je suis entre 1,5 et 2. Après, c'est vrai que dès que je fais une journée où j'ai réalisé un entraînement avec beaucoup de dénivelé, ou l'hiver un truc plutôt typé muscu, ou une course, tu vois, une course de trail, donc bah encore une fois en fait qu'est-ce qu'il y a, il y a beaucoup de dénivelé, et surtout ce dénivelé je l'avale à une vitesse enfin la plus vite possible. Donc à ce moment-là je considère que j'ai pété vraiment beaucoup de fibres et je fais attention sur cette journée et le lendemain à être quasiment à 2 grammes par kilo de poids de corps. Alors après, je pèse pas vraiment. Enfin, du moins, j'ai pesé pendant longtemps et du coup, à l'œil, je me rends à peu près compte. Alors de temps en temps, je ressors un peu la balance, mais bon, c'est plus occasionnel qu'autre chose maintenant. Du coup, en fait, ce que je fais, par exemple, c'est que je fais les mêmes repas que d'habitude Et puis j'ajoute, par exemple, un yaourt de chèvre avec une purée d'oléagineux à l'intérieur. Des choses comme ça. Ou le matin, j'ajoute un œuf. Voilà, tu vois, je prends une journée de type, parce que finalement, elle est peut-être plus entre 1,5 et 1,7 grammes par kilo de poids de corps. Et si je considère que j'en ai besoin, j'ajoute un truc. Voilà, comme ça, c'est simple à compter, c'est facile. Après, les sources de protéines, je n'en boude aucune. Je fais attention à manger du boudin deux fois par semaine. Je ne mange pas de steak, je ne mange pas de viande rouge hormis ce boudin, parce que en fait je vais chercher vraiment le fer. Donc le steak, il y a moins de fer que le boudin. Du coup j'en déduis qu'il y a moins d'intérêt et je reste sur mon boudin. Alors évidemment, de temps en temps, ça change, parce que quand je suis speaker les week-ends, souvent, il y a une pièce de viande. Et donc à ce moment-là, je mange du boudin, je sais pas moi, le mercredi midi. Et je sais que dans le week-end, je vais manger une pièce de viande via mon travail de speaker. Les protéines animales, je les mange plutôt le midi, parce que suivant la parole biblique de la chrononutrition, notre organisme est plus à même de trier, traiter et recevoir cette protéine animale en début de journée, quoi. Et c'est pour ça que je fais un repas végétarien le soir. Déjà parce que c'est un petit peu plus digeste. Ah, tu vois, une belle entrecôte le soir, tu mets un peu de temps à la digérer, tu dors peut-être un peu moins bien éventuellement. Alors qu'un riz lentille, ça va mieux. Et donc, mes protéines végétales, parce que l'association du riz et des lentilles vertes te propose une protéine finalement complète, je vais les manger le soir. Après, toute la semaine, je fais attention aussi à manger au moins deux fois du poisson. Alors, le poisson, chez nous, en Savoie, tu peux trouver de la truite assez facilement. Souvent, c'est truite. C'est possible que j'en mange une fois par semaine. Parce que ça se pêche dans à peu près tous nos lacs de montagne. Dans le lac du Bourget, tu pêches beaucoup du lavaret. Mais bizarrement, en fait, je le retrouve assez peu dans les magasins, et c'est assez rare en fait que j'ai l'occasion avec le travail de speaker d'aller à la coopérative, donc je peux pas te dire que je mange régulièrement du lavaret. Et du coup, souvent, ça va être la boîte de conserve de thon et ou de sardines et ou de maquereau. Donc tu vois, et puis plus les œufs et le roquefort le matin, en fait, mes sources de protéines, c'est toutes les sources. Alors tu vas me dire, oh, putain, le roquefort le matin, fromage, laitage, patati, patata. Tu as raison. Alors en fait, il y a fromage et fromage. Déjà, tous les fromages au lait de vache, vous pouvez essayer de les mettre plutôt de côté. Maintenant, même un fromage au lait de vache, il faut bien voir qu'un Babybel n'a pas la même qualité nutritionnelle qu'un Beaufort, par exemple. Le Babybel, vous avez du lait qui vient de l'industrie la pire possible, donc vous avez la moins bonne qualité de lait, et derrière, on vous fait un truc un peu rond, emballé dans un truc rouge relativement louche. Alors que le Beaufort, vous avez le meilleur lait de vache possible, puisque les vaches sont dans le Beaufortin, elles sont entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Vous pouvez les caresser lors de vos rando courses, ça c'est cool, et quand vous partez tôt de vos rando courses, vous voyez le fermier qui traite les vaches à 5h du mat à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Donc le Beaufort, c'est le lait de vache le moins dégueulasse, quoi, on peut dire. Après, vous avez peut-être ça aussi pour d'autres fromages, mais au moins le Beaufort, je le connais, je peux vous en parler. Pour vous dire, qui est-ce qui défend le Beaufort ? Benoît Nave, nutritionniste quasiment nazi-sioniste. Enfin, c'est un gars, voilà, il refuse presque que tu boives une boisson d'effort à l'effort. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances et sur la nourriture. Et justement, il va jusqu'à te dire par contre que le Beaufort, Alors évidemment, si vous ne le tolérez pas parce que vous avez une grave intolérance au lactose, ça fonctionnera pas quand même. Mais pour ceux qui n'ont pas d'intolérance, vous pouvez le consommer. Voilà, selon lui, c'est plutôt une bonne qualité. Vous pouvez y aller. Et moi, je mange le Roquefort parce que dans le Roquefort, vous avez toute la moisissure là, qui vous apporte des pré- ou probiotiques, je sais plus. Le Roquefort, il est fait avec du lait de chèvre. Le Roquefort, c'est un petit peu comme le Beaufort, mais du côté de l'Aveyron, de Millau, tout ça, là, le Larzac. C'est normalement des brebis qui... Alors, pour avoir fait beaucoup de courses par là-bas, on les voit hein, sur le plateau, elles sont pas emmerdées par le monde. Donc là aussi, vous avez une production plutôt raisonnée pour le Roquefort. Et vous avez tout un tas de labels qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le Roquefort. Donc voilà, et pour les œufs, bah, c'est pareil, les œufs, alors je pense que les trois quarts de mes consommations d'œufs sont issus de la ferme, en fait, parce que mon voisin a des poules, donc il me vend ça, à chaque fois je veux le payer plus, mais il refuse, hein, il me vend ça à prix d'or. Et sinon, bah là tu vois, je suis à Tignes, donc il n'y a plus de poules hein, à Tignes, il n'y a plus les poules. Du coup, je suis obligé d'acheter des œufs dans les commerces. Bon, tu trouves, voilà, dans le commerce, t'as aussi des œufs avec le label rouge, le bleu blanc-cœur, qui est apparemment plus enrichi en oméga 3. Donc voilà, pour mes sources de protéines, en fait, tu vois, Tanguy, bah, c'est toutes les sources. Je ne me prive de rien, parce que dans toutes les sources, il y a des choses intéressantes. Par exemple, si tu adoptes un régime uniquement végétarien, en fait, c'est pas pour ta santé, ça c'est les menteurs qui disent ça, c'est pour... l'intérêt que tu portes à la cause animale, qui est très noble hein, aussi. Mais dans ce cas-là, tu vas te priver de tout ce que contient la viande. Fer, carnitine, créatine, d'autres trucs que je connais peut-être moins bien. Tu vas te priver de ce qu'il y a dans le poisson, oméga 3, etc. Zinc, iode. Et dans les végétaux, ben le fer végétal, quoi qu'en disent les ayatollahs du véganisme ou de tout ça, le fer végétal est moins bien fixé dans votre corps. Alors, si vous n'avez jamais eu de carence en fer et que vous êtes quelqu'un qui a toujours eu des taux relativement élevés, bah vous serez jamais en manque de fer, donc vous pouvez adopter une alimentation végétarienne, vous n'allez rien voir. Si, comme moi, vous êtes quelqu'un qui, depuis la naissance, parce que ses parents sont comme ça aussi, hein, je pense que c'est un petit peu héréditaire, a toujours eu du mal à fixer le fer, a toujours eu des réserves en fer relativement faibles, eh bien, en adoptant un régime uniquement végétarien, vous allez aller dans le mur au bout de quelques mois, années, etc. Donc, attention à ne pas tomber dans l'excès. Voilà, faire uniquement végétarien. Ou pareil, attention à ne pas bouffer uniquement de la viande rouge, par exemple. Si vous mangez du poulet le midi, une entrecôte bien saignante le soir, que le lendemain, c'est du boudin, puis le soir, du foie de porc, etc., etc., là déjà, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très bas en fer, en fait, vous allez être trop haut, ce qui est aussi un problème. Et puis, bah, la viande est quand même c'est une source de protéines qui est relativement acidifiante, donc bah, pareil, si vous en consommez trop, vous allez être trop acide. Donc, voilà pourquoi moi j'ai une alternance entre tout. Du coup, je bénéficie de tous les côtés positifs des aliments, sans avoir leur côté négatif, parce que vu que je suis jamais dans l'excès, eh ben, je peux pas développer un problème lié à leur côté négatif parce qu'ils sont relativement insignifiants par rapport à tous mes repas de la semaine. Donc en variant le plus possible, c'est comme ça qu'on se soustrait à des soucis à développer. Par exemple. Tu vois, par exemple, pourquoi il faut se méfier du gluten ? Normalement, tu manges une pizza, il va rien t'arriver, tu vois. Mais... Si le midi, tu manges un plat de pâtes. Au goûter, tu prends des biscuits. Le soir, tu te fais plaisir avec tes potes, tu prends un kebab, une pizza. Le lendemain matin, tu déjeunes avec des tartines de pain. Le midi, ah bah tiens, tu prends des ravioles. À 4 heures, tu manges toujours le même goûter avec quelques biscuits, une tranche de pain. Complet, ah oui, complet. Et puis le soir, bah pareil, tu te refais un plat de pâtes ou des conneries comme ça. Donc en fait, tu vas manger du gluten matin, midi et soir, quoi. Et à ce moment-là, bah, tu vas développer tous les problèmes liés au gluten. Et un jour, tu vas être malade et tu pourras plus en manger, c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut le restreindre, le limiter, pour continuer dans le temps à pouvoir se faire plaisir. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe ? Certains développent... Rigolez pas, ça arrive à des gens, c'est pas drôle du tout. La maladie celiac, je sais plus le nom. Et à ce moment-là, ils peuvent plus du tout en manger, donc c'est fini de se faire plaisir. Tandis que moi, qui en mange très rarement, donc je cuisine toujours sans. Et par contre, quand je me rends sur une animation et qu'un bénévole me tend les spaghettis bolognaises du midi, là, le repas coureur, bah, je peux les manger sans problème, parce que je sais que je vais pas y retoucher jusqu'à la semaine prochaine. Donc mon corps aura largement éliminé tout ça. Ce sera un déchet toxique qu'il aura eu largement le temps de trier et éliminer. Et il n'y a pas de souci. Par contre, si j'en mange tous les jours, ben là, je m'expose à un petit souci, quoi. C'est pareil, tu vois, le soir, je te dis que je mange du riz lentilles, mais finalement, le riz, ben, à un moment donné, je vais le prendre basmati, à un moment donné, je vais le prendre thaï, les lentilles, je vais les prendre corail, je vais les prendre vertes, un coup, je vais faire plutôt avec les pois chiches, un coup, je vais faire avec des haricots rouges, etc., etc. Donc, ça change sans arrêt. Idem, le boudin, en fait, c'est vrai que de temps en temps, je prends aussi du foie, veau, porc, voilà, ça change un peu. Donc, finalement, tu vois, Tanguy, pour finir sur ta question, ben, je prends à peu près toutes les... tout ce que le monde nous offre, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, une question de Valentin, plutôt axée sur la récup. Et puis, on s'arrêtera là. Après, j'en garderai pour demain aussi. Question axée sur la récup, Valentin Bénard. Valentin, qui a un sosie, Valentin. Enfin, un homonyme, du coup. Valentin, il me demande qu'est-ce que tu penses, mais je l'ai déjà fait en podcast, mais bon, on va faire un bref résumé, ça lui fera plaisir. Du Compex, des pistolets de massage, style Terragun ou l'Hypervolt, moi j'ai l'Hypervolt, du Blue Tense, patati patata, des étirements. Je pense que ça doit être le cadet de vos soucis. En fait, pour monsieur tout le monde, qui a une famille, qui a un travail classique, tu vois, à peu près 35, 40, 45 heures dans la semaine, j'en sais rien. Pour ces gens-là, le souci, c'est pas de récupérer. C'est de trouver du temps pour s'entraîner. Sans nuire à son sommeil. Bah, parce que sinon, on peut s'entraîner toute la nuit. Donc, plutôt de vous poser la question, est-ce que je vais faire une demi-heure de complex ce soir ? En fait, commencez par la base. Est-ce que je me suis suffisamment entraîné cette semaine ? Etc. Est-ce qu'avant d'aller courir, j'ai bien pris le temps de faire mes mobilités articulaires? Est-ce que je me couche à la bonne heure? Est-ce que je mange correctement? Voilà. Et après, dans un second temps, vous pouvez vous intéresser aux techniques de récupération. Mais qu'est-ce que c'est la meilleure technique de récupération? Et là, je vais faire un petit peu de pub aussi pour le podcast de la borne plein les oreilles avec Thomas Laure Blanchet, qui avait parlé de la récupération. Je ne sais plus si c'était le troisième, le quatrième ou le cinquième. Et c'est simple, hein. Le meilleur moyen de récupérer, c'est un bon sommeil. Donc, concentrez tous vos efforts sur le sommeil. Et une fois que ça, c'est bon, une fois que ça, c'est irréprochable, dans un second temps, vous passez aux babioles du monde moderne pour récupérer un peu mieux. Mais si vous avez un sommeil catastrophique, vous avez beau faire une demi-heure de complex, faire 10 minutes de pistolet de massage, faire des étirements, bah, ça marchera pas. Parce que le manque de sommeil est trop néfaste. Donc vous avez beau ajouter... Imagine, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le manque de sommeil va vous niquer 30% de vos perfs, et le complex, le ceci, le cela, va augmenter vos perfs de 5%. Donc si vous n'avez pas encore compris, achetez une action en bourse, hop, elle perd 30%, donc sur 1000 euros, bah, d'un coup, vous passez à 700, donc vous êtes triste. Et puis, bah, finalement, il y a une bonne nouvelle, mais relativement insignifiante, et elle regagne 5%. Donc là, bah, de 700, vous passez, je sais pas, à 760, 770. Vous êtes encore loin des 1000 euros. Bon, ben bah, voilà. Du coup, tu vois, Tanguy, j'aurais quand même du mal à te le recommander. Après, évidemment, si vous avez du temps libre, si le sommeil il est plus ou moins OK... Si vous avez le temps de faire des courses dans des lieux respectables pour avoir des bons aliments, si vous vous êtes suffisamment entraîné, puis voilà, bah, il vous reste encore du temps, vous vous dites « Ouais, non mais attends Hugo, moi je fais tout bien et tout, mais le soir, de 20h30 à 22h, bah, en fait je suis dans mon canapé, devant la télé, ou je lis un magazine, ou j'ai un peu du temps perdu, et j'ai l'impression que je pourrais le mettre à profit. » Bon, d'accord. Alors dans ce cas-là, l'essentiel pour moi, c'est de commencer par un automassage. Avec un rouleau. Pourquoi l'automassage ? Parce que c'est vous qui allez sur le rouleau. Donc, vous appuyez votre muscle sur le rouleau et vous voyez si aujourd'hui vous pouvez appuyer beaucoup, si aujourd'hui vous avez des courbatures, vous ne pouvez pas appuyer beaucoup, donc c'est vous qui jugez, et là, il y a une vraie prise de conscience de votre corps. Donc, ça, c'est top. Après ces automassages, vous pouvez vous étirer un petit peu. Alors là, bah, tout le monde aura sa routine d'étirement particulière. Moi, mon gros souci, c'est la chaîne postérieure. Les fessiers, les ischio-jambiers et tout ce qui va être autour du talon d'Achille, donc la plante des pieds et le mollet. Ça, je l'étire beaucoup parce que chez moi, c'est très raide. Après, chez d'autres gens, ça peut être les quadriceps, le dos, j'en sais rien. Donc après les automassages, vous avez une phase d'étirement. Chez moi, elle va durer de 15 à 30 minutes. Bon, 30 minutes, c'est plutôt rare, suivant ce que je veux faire. Pareil, les automassages, 15 à 30 minutes. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, qui est, je pense, une très bonne technique, vous pouvez finaliser le tout avec un complex, si vous adhérez à la croyance que le courant électrique va vous permettre de mieux faire circuler un peu le sang dans vos veines, tout ça, tout ça. Vous pouvez le faire. Le pistolet de massage, je l'utiliserai à un autre moment. Déjà, le pistolet de massage, durée maximale d'utilisation, 5 à 10 minutes. Parce que sur un muscle, il ne faut pas dépasser 1 à 2 minutes suivant la taille du muscle. Sinon, vous cassez tout. Donc le pistolet de massage, moi, j'utiliserai quand vraiment vous avez un blocage. Par exemple, un truc chez moi qui est pas mal avec le pistolet de massage. Imaginons que je me masse le jambier intérieur. Et en haut du jambier intérieur, donc sous le genou à l'extérieur, souvent j'ai un point dur. Bon, bah là, qu'est-ce que je fais? Hop, pistolet de massage. Paf! 1 minute sur le point dur. Et c'est assez agréable. Autre point dur que j'ai, bah c'est sous la plante des pieds, pareil, hop, 1 minute de pistolet de massage, et sous le mollet, entre le mollet et la malléole interne de la cheville. Là, souvent, chez moi, c'est tout crispé, hop, pistolet de massage. Et le dernier endroit où je mets le pistolet de massage, c'est à l'extérieur du bassin. Voilà. Alors là, 2 minutes, là. Parce que là, c'est gros, là. Donc voilà, et puis après, est-ce que vous faites du complexe ou du Blue Tense? Bah le Blue Tense, c'est un petit peu plus français, alors je sais pas s'ils payent leurs impôts en France, mais c'est un poil plus français que complexe quand même. Donc voilà, si vous êtes un peu patriote, vous pouvez acheter ça. C'est un peu des programmes différents, mais enfin le concept est quand même le même, il y a un courant électrique qui passe dans votre corps. Un autre truc qui est marrant à utiliser, qui est beaucoup plus simple à utiliser que le complexe, c'est le Revitive. C'est un espèce de rond qui se pose par terre, vous mettez vos pieds dessus, et il y a un courant électrique qui passe, et hop, ça vous fait vibrer tout le corps. C'est assez rigolo, ça coûte 300 balles, donc finalement, bah, c'est moins cher que certains complexes. Et bah, en fait, c'est facile, hein, vous le posez sous la table basse du salon, vous le sortez, vous mettez vos pieds dessus, voilà, vous n'avez pas besoin de coller des électrodes, des fils, des trucs, des machins. Donc voilà, Valentin, pour les techniques de récupération, hein, donc en résumé, voilà, pensez à votre sommeil, c'est le plus important. Je vous laisse là-dessus, j'ai quelques petites dernières questions pour demain, si vous voulez m'en poser, continuez à le faire, bah bien sûr, je les noterai, puis je répondrai au fil de l'eau. Demain, le programme, eh bien, on se remet au sport, avec une sortie en groupe, tranquille, le matin, animation des courses en fin d'après-midi, et le soir, normalement, j'ai une séance, mais je n'ai pas encore reçu la séance, donc bah, j'espère la recevoir avant demain soir. Si je ne la reçois pas, je ferai un run d'1h, 1h30 avec des choses toniques en boss. Voilà. Parce que je sens que j'en ai besoin. Donc, rendez-vous demain pour le podcast journalier. Je le ferai, je sais pas trop à quelle heure. Peut-être le soir, assez tard d'ailleurs. Comme ça, vous aurez un résumé de la journée. La journée de la reprise du sport demain. Allez, salut, bonne journée à toi. Et c'est bientôt le week-end. Souris, souris à la vie.